bien sûr, notre train va partir. Attention.
Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Salon du Livre de Genève aujourd'hui pour cette émission spéciale à l'occasion de cet événement littéraire majeur en Suisse qui réunit 650 écrivains venus du monde entier, une scène internationale. À l'image de mes deux invités, nourris de plusieurs cultures, nous allons en parler. Et d'abord, je présente Raphaël Redd, qui est né en France, installé à Berlin, en Allemagne, et dont le premier roman vient de paraître sous le titre « Adikou » aux éditions Grasset, et qui se déroule en partie aux États-Unis et en partie au Togo, voire au Ghana. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et en face de vous, donc Meysa Mbaye, dit le prince des poètes au Sénégal. Vous êtes griot, musicien, performiste, vous avez 1000 cordes à votre arc et votre nouveau livre s'intitule « Génie » au pluriel. C'est un recueil de 7 contes traditionnels publiés aux éditions Saharaba. Et donc l'un et l'autre, je vous ai réunis parce qu'il me semble que vos univers sont imprégnés de voyages, à la fois des voyages intérieurs, bien sûr, mais aussi des voyages géographiques. Peut-être que vous vous posez l'un et l'autre aussi la question de l'identité et de l'appartenance. Et je me tourne vers vous pour commencer, Raphaël Redd. En effet, votre narratrice Adikou, dont on prononce peut-être le nom Adikoui, une jeune fille qui a une double personnalité, puisqu'elle s'exprime à la fois avec un « je » et un « elle ». Là aussi, peut-être vous nous expliquerez pourquoi. En tout cas, pourquoi Adikou est-elle hantée par ses origines ?
Je pense que c'est intéressant de partir du prénom, justement. Comme je disais, je prononce Adikou, ce nom dont, en fait, assez tôt dans le livre, elle va apprendre qu'il se prononce peut-être plus justement Adikoui. Et il me semblait intéressant de rentrer par là parce que je pense que c'est assez symbolique en fait de justement ce qui la hante, c'est-à-dire l'impression d'être, de ne pas avoir connaissance de quelque chose d'aussi fondamental que la prononciation de son propre prénom. Ça en dit long sur un phénomène plus vaste ou une incertitude plus vaste quant à l'identité. Mais c'est vrai que ça m'intéressait d'exposer un personnage comme ça qui fluctue entre différentes identités et qui n'est pas, en tout cas au début, pas forcément à l'aise avec ça.
Donc vous, c'est la question des origines. Et d'une certaine façon, Meysa Mbaye, j'ai l'impression vous, que c'est la question de la transmission.
Oui, identité, parce que j'ai été éduqué à la tradition sénégalaise, orale, par ma grand-mère Fatou Diéré Seck, qui, justement, a voulu faire de moi un Sénégalais, mais aussi un jeune Sénégalais très ouvert, très ouvert. Donc, il est vrai que ce travail-là, pour moi, est une démarche de transmission, puisque j'ai eu tous ces contes en héritage, et j'ai voulu ces contes aussi, moi, le donner en héritage à presque, j'allais dire, l'universel. Ça rejoint cette idée d'appartenance, puisque je me sens bien Sénégalais. Mais je pense que, de par mes curiosités culturelles, j'appartiens un peu, comme le disait le poète Senghor, à une civilisation de l'universel.
Et puis, l'un et l'autre, vous nous faites voyager, et vous avez voyagé dans vos vies. Ce qui m'a frappé, à la fois dans le roman et dans le recueil, c'est de trouver des lieux en commun. Alors, avant de parler de ces lieux, peut-être aussi avec vous, Raphaël Redd, parler du Togo, parce que c'est bien là où Adikou se rend. Elle va à Lomé, c'est la deuxième fois en l'occurrence, elle a déjà fait un voyage préparatoire dans le cadre d'une organisation humanitaire, mais là elle y retourne seule, elle a le contact d'un oncle peut-être, à qui elle pourrait en effet téléphoner, mais elle va chercher les traces de son père. Clairement. Vous, je crois que vous êtes allé aussi à Lomé pour écrire ce livre. Quel est votre lien avec le Togo, Raphaël Redd ?
Ben justement, c'était important pour moi. J'ai des origines togolaises. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire ce texte, j'avais dans l'idée que, vu l'histoire que je voulais raconter, ça faisait sens qu'il y ait une partie qui se déroule au Togo. Mais moi-même, je n'avais pas de lien direct au-delà de ces origines vagues avec le pays. Et c'est comme ça que j'ai été en résidence d'écriture à la Maison des Artistes, à Lomé. Et c'est là qu'une partie importante du texte s'est créée. Et je crois que justement, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que peut-être on se crée une lignée, parce que ce n'est pas seulement une question de retrouver l'oncle ou trouver une famille et une culture, c'est aussi... Ça va de pair avec le fait de la créer soi-même, en fait, d'aller chercher ce dont on a besoin. Et il y a un terme qui me tient assez à cœur, qui est dans le roman, qui est celui de l'auto-initiation. Cette idée que peut-être il y a la possibilité de faire un pas ou un effort supplémentaire pour se trouver à l'endroit de l'initiation. Et pour moi, c'est aussi très lié justement à cette question-là de la transmission, c'est-à-dire ne pas accepter comme une fatalité une rupture dans la lignée, mais plutôt essayer de... par l'imaginaire, mais aussi par le voyage, par la curiosité, par l'intérêt de recréer un lien et une lignée, justement.
Vous n'avez plus de famille au Togo ?
Moi, j'ai de la famille au Togo. Ouais.
Donc, c'est la différence avec Adikou,
oui.
Qui, elle, part un peu à l'aveugle. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle va trouver. Mm-hmm. Certes, elle va trouver un cousin, un oncle, une grand-mère, mais quand elle part, elle ne sait pas qui elle va trouver.
Ouais.
Vous n'aviez pas besoin d'aller rechercher des réponses à des questions ?
Si, les questions, oui. Enfin, c'est-à-dire que je dis souvent que les problématiques et les interrogations, et d'ailleurs les émotions qui sont dans ce roman, elles sont en grande partie miennes. C'est parce que j'avais envie de les incarner dans ce roman. Et donc moi, j'ai un lien fort avec les interrogations que j'ai fait porter à Adikou dans ce texte.
Vous, Maïssa Mbaye, vous n'avez pas les mêmes interrogations sur l'identité. Comme vous le disiez, vous vous sentez profondément sénégalais. Mais en même temps, c'est un Sénégal que vous emmenez partout avec vous. Quand vous vivez en France, quand vous allez aux États-Unis, quand vous retournez sur le continent africain, vous avez toujours votre sénégalitude avec vous, j'ai envie de dire.
Oui, et puis je pense que cette problématique de l'identité... aujourd'hui est assez tenue et biaisée. Moi, la réaction que j'ai quand je suis au Sénégal, c'est que peut-être les Afro-descendants, les Sénégalais de la diaspora, qui de plus en plus tiennent compte vraiment de cette culture sénégalaise, puisqu'on y subit beaucoup la mondialisation, beaucoup de normes, beaucoup d'aspects de nos patrimoines immatériels se perdent. Et c'est d'ailleurs en réaction à cela que j'ai fait des recherches sur les techniques oratoires africaines que j'enseigne à Dakar. Puisque quand je suis arrivé à Dakar, je me suis rendu compte que ce que l'on enseignait, par exemple, en art oratoire, c'était l'art oratoire desmondien, européen. Et c'est quand même une hérésie dans un pays de l'oralité justement, de faire fi de ce patrimoine. Donc, je suis un militant, je suis un cheikh antaïste de Cheikh Anta Diop. Je ne suis pas un indigné, je suis un militant rassuré. Parce que je pense que face à cette mondialisation, il y a des contre-feux. Et les contre-feux, c'est aussi ce que vous faites, ce que ce livre préconise, Génie, qui est un voyage vers justement ces imaginaires-là et qu'il y a des camps de résistance culturelle et cultuelle justement. Et je pense que c'est cela qui fera que ce patrimoine-là va se perpétuer au fur et à mesure.
Alors je rebondis sur un mot que vous venez d'employer, Maïssa Mbaye, diaspora. Ça, c'est un terme qui revient régulièrement aussi sous votre plume, Raphaël Red, avec la question de l'exil. Est-ce qu'on hérite de l'exil ? Est-ce que c'est une souffrance ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait avec son propre exil ? Ce qui m'a frappé aussi dans vos deux ouvrages, c'est que donc, l'un et l'autre, vous parlez de la ville d'Atlanta, aux États-Unis, parce qu'Adikou, elle va faire un voyage où elle essaye de se retrouver avant d'aller au Togo. Vous aussi, il est question d'Atlanta et de la même façon qu'il est question de l'île de Gorée, qui est un lieu emblématique, évidemment, dans l'histoire humaine. Alors, je ne sais pas si l'un et l'autre voulaient commenter ces deux lieux qui, incroyablement surgissent dans vos textes.
Mais pour moi, j'avais envie de retrouver une ville.
Vous parlez de...
D'Atlanta.
Atlanta.
Où les Noirs étaient powerful. Les Noirs avaient pris donc leur destin en main. Et puis, c'est une période où je voulais étudier le gospel. Mmh. Alors, je suis allé à Atlanta. J'ai un peu fréquenté la chorale de Martin Luther King, Ebenezer Church. Et je voulais chercher aussi le lien entre les techniques de chant africaines et les techniques de chant américaines. Et du coup, je me suis rendu compte que rien n'avait disparu. Les Afro-Américains, dans leur approche du chant et du verbe, sont restés très, 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 très africains.
Alors maintenant que vous avez parlé d'Atlanta, je vais peut-être demander à Raphaël Redd de nous parler de l'île de Gorée. Pourquoi est-ce que c'était un lieu important pour vous ?
C'est vrai que l'île de Gorée, en tant que lieu emblématique de... Un des lieux emblématiques de la traite et de l'esclavage, et pour moi, avait sa place dans ce récit, dans ce roman, que je revendique vraiment comme un roman afro-diasporique. Et donc, voilà, peut-être que c'était aussi une manière de cartographier certains des endroits qui me semblent proposer cette carte alternative ou cette géographie alternative qui serait celle de la diaspora africaine.
On va parler un peu plus précisément aussi de ce recueil génie avec vous, Meissam Bey. Donc, 7 contes que votre grand-mère vous a transmis, mais j'imagine qu'il y en avait beaucoup plus. Alors, sur quels critères avez-vous choisi ces 7 histoires ?
En fait, nous avons déjà commencé à recenser un certain nombre de génies. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, au Sénégal particulièrement, chaque ville a son génie. J'allais dire que même on retrouve le lien entre le surnaturel, l'animal et le végétal, et l'humain. Et ces éléments-là ont si un pacte. Et dans chaque famille, par exemple, moi, le totem de ma famille, c'est le varan. Celui de ma mère, c'est le porc-épic. Donc, l'Afrique était écolo bien avant l'écologie. Et on avait ce sens vraiment de cette continuité dans les êtres. Et en fait, dans un premier temps, on a pensé à visiter les génies polyades, c'est-à-dire les génies qui peuplaient justement les mers et les l'océan. Nous en avions identifié celui de Dakar, qui en fait serait le père des différents génies, Lekda Wombeye. Celui de Gorée, Mamkoumba Castel, de Rufisque et de Saint-Louis. Mais, comme je vous le disais, chaque région a son génie. Et on ne pouvait pas quand même les traiter tous, parce que ce n'était pas évident, surtout que dans les interprétations de ces génies, on avait toujours, les recherches que nous avions faites, donné des origines très, 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 très diverses. Il fallait écouter, il fallait les recenser. Et puis après, j'avais le choix personnel de dire, tel génie, je vais conter l'histoire. Certes, il y a eu transmission de ma grand-mère, mais il y a eu aussi une démarche personnelle que j'ai faite, puisque c'est un projet qui concernait aussi un public de jeunes. Donc, il fallait trouver le prisme pédagogique afin que ces contes-là puisse être accessible. Je crois que... Donc, on peut dire que c'est un niveau premier d'explication des génies pour ce public de jeunes. Et puis, peut-être, si un jour, il y a génie 2, nous pourrions aller vers... d'abord, inviter les autres génies du Sénégal qui habitent la région de Kaolack, il y a Mbossé, Djourbel, etc. Et puis, peut-être, relever un tout petit peu plus les explications de ces origines-là.
Donc, cette créature mythologique du Sénégal, ici reprise, oui, mm-hmm. dans ce magnifique album, d'ailleurs, dont je n'ai pas encore dit qu'il était illustré par Sophie Lehir, aux éditions Saraba. Et comme il y a une version audio de ces contes, et qu'on peut donc les écouter, quel conte nous proposez-vous, Meissam Bey, maintenant ?
Je vous proposerai bien Lekda Wombeye, parce que c'est le génie protecteur de Dakar. Et même de la région de Cap-Vert.
On l'écoute alors.
Goudi, amna borom.
Khewe était une jeune fille qui vivait à Fan Ok. À l'époque, ce quartier de Dakar n'était encore qu'un petit village. Les parents ne craignaient rien pour leurs enfants lorsque ceux-ci rentraient tard. À l'aube de son 12e hivernage, Khewe assistait cette nuit-là à son tout premier tanneber. Le spectacle avait été si enchanteur qu'elle en oublia l'heure qui passait. Il était presque minuit lorsqu'elle se décida à rentrer. Alors qu'elle arrivait dans sa ruelle, de mystérieux bruits de sabots et de grelots se firent entendre. Clink-clink-coq, 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 clink-clink-coq. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit rien. Croyant à un tour de son imagination, elle poursuivit son chemin. Cependant, les bruits se rapprochèrent et semblaient la suivre. Khewe hâta le pas. Elle aperçut enfin sa maison et le grand manguier qui la protégeait. Puis, elle distingua une silhouette blanche, presque aussi grande que l'arbre. Curieuse et téméraire, Khewe s'avança plus près. Devant elle se dressait un cheval gigantesque, majestueux. Il était entièrement blanc et brillait dans la nuit, illuminant ainsi la petite ruelle de Fan Ok. De plus, il n'avait qu'un seul pied. Comment était-ce possible? Khewe était fasciné. Soudain, le cheval parla d'une voix grave comme un être humain.
« Que fais-tu là? Ne sais-tu pas qu'il est interdit de sortir le jeudi soir? Sais-tu qui je suis?
Serais-tu le Gdaour, le génie protecteur de Dakar?
C'est ainsi que l'on m'appelle. Mais mon vrai nom est Gdaourumbe. Sois rassuré, je ne te ferai aucun mal. Sais-tu où j'habite?
Non, répondit la jeune fille.
Ma demeure est l'île aux serpents. C'est de là que je protège mes enfants, qu'ils soient humains ou animaux. Tu découvrir mon royaume?
Khewe avait déjà entendu parler de ce génie bienveillant. Elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Émerveillée, elle grimpa sur le dos de l'immense cheval et s'accrocha à son épaisse crinière. Ils s'élevèrent dans les airs et survolèrent l'océan en direction de l'île aux serpents.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec une émission spéciale aujourd'hui au Salon du Livre de Genève où nous nous trouvons, un salon qui se tient jusqu'à dimanche et où sont invités les deux auteurs que je reçois, Raphaël Red pour son roman Adikou aux éditions Grasset et Meysam Baye pour son recueil Génie, magnifiquement illustré par Sophie Lehir aux éditions Saraba. Après avoir en première partie dessiné un peu le contour de vos univers, je vous propose de parler peut-être un peu plus d'écriture, parce que c'est vrai qu'ici, par exemple, avec vous, Raphaël Red, il est question du métissage, il est question du retour au pays paternel, le Togo, mais il est aussi question de souffrance interne, de colère, de peur, de folie, peut-être, mais avec aussi... La littérature qui permet, et ici ça a tout son sens parce que la question de la couleur de peau, c'est vraiment une question qui hante Adikou, et ici elle dit écrire pour ne plus être regardée. C'est ça aussi l'écriture, c'est que d'un seul coup, le corps disparaît au profit d'une âme.
Oui, c'est intéressant parce que je pense que c'est tout à fait juste et que dans le même temps, il y a une remarque qu'on m'a fait beaucoup là depuis que le livre est sorti qui a beaucoup de corps en fait dans le texte, que le langage des entrailles, du sang, des organes parfois, etc. était très présent. Et donc en fait, oui, ça confirme un peu cela, c'est-à-dire peut-être en tout cas sortir de l'unidimensionnalité, sortir de ce qu'on voit au premier abord et utiliser la langue comme un moyen de rentrer, alors oui, peut-être dans un premier temps dans la chair et puis ensuite d'aller jusqu'à l'âme idéalement. Ouais.
Et puis la littérature aussi comme refuge d'une certaine façon, parce que vous écrivez, si elle lisait assez de livres, écoutait assez de chansons, peut-être trouverait-elle son chez-soi où qu'elle aille.
Oui, c'est une citation ambiguë, je pense, parce que justement, le rapport entre la narratrice et Adiku est justement ambigu, complexe, ambivalent. Et en l'occurrence, ça, c'est quelque chose que la narratrice reproche un peu à Adiku, en fait, c'est-à-dire de fuir dans un imaginaire de l'appartenance, qui est d'ailleurs, par exemple, ce qui l'amène aussi aux États-Unis dans un premier temps, c'est-à-dire cet imaginaire d'une identité noire, fière, visible, c'est-à-dire représentée aussi, etc. Et je pense que dans le roman, une des tensions, une des choses qui se négocient là, c'est aussi ce rapport au livre, à la musique, à l'imaginaire, comme... je pense qu'il y a deux manières de l'appréhender, soit comme une fuite, et donc peut-être vraiment une fiction, ou alors comme un endroit où on va venir trouver des morceaux d'identité. Et c'est un peu ça qui se joue aussi dans Adiku.
C'est pour ça que moi, je parlais plutôt de refuge.
Oui.
Et peut-être de maison, mais maison au sens métaphorique du terme. Alors la question, justement, de l'écriture, elle est très intéressante aussi pour vous, Messambay, parce que ces contes oraux qui vous ont été transmis par votre grand-mère. Et puis vous le disiez tout à l'heure, vous enseignez les arts oratoires à Dakar. Vous êtes un chanteur, un musicien. Comment est-ce qu'on fait pour retranscrire l'oralité de ces contes et la langue dans laquelle elle vous a été transmise? Dans quelle langue, d'ailleurs, votre grand-mère vous parlait-elle?
Ma grand-mère me parlait en wolof. Mais moi, je dis que je ne suis que le passeur de mots de cette grand-mère. Il est vrai qu'elle comptait en wolof et j'ai projet de faire un livre où le français et le wolof voyageraient ensemble. Puisque ma grand-mère était une conteuse, danseuse, chanteuse, et traduire en langue française ces mots, ces expressions, de traduire ses émotions, et aussi chez moi une partie de liberté. Et j'espère que je ne l'ai pas trahi. Il m'est arrivé de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Et je pense qu'aussi, elle l'aurait perçu, comme c'est une grande artiste, elle aurait perçu cette liberté-là. Mais il y a des mots que la langue française peut appauvrir. Puisque chez nous, il y a beaucoup de mots qui ont plusieurs sens. Alors c'est... à l'écrivain, à l'auteur, la liberté d'en choisir un sens et de voyager avec ce sens-là.
Mais d'une certaine façon, ils sont presque bilingues, ces contes. Il y a beaucoup de langues wolof, avec un glossaire pour nous permettre de suivre si on n'est pas locuteur.
Tout à fait, tout à fait. Il y a des chansons qui sont aussi du cru traditionnel. Et ces chansons-là, pour les traduire en français, on en perdrait pratiquement le rythme. Donc, on a voulu les laisser dans la langue originelle.
Dans une seconde, on va parler aussi de la grand-mère et de la langue, hein, qui tiennent une place importante dans votre roman, Raphaël Red. Mais en attendant, je me disais, ce patrimoine oral qui est magnifique, qui se transmet de génération en génération, ici, il vous a semblé nécessaire qu'il soit aussi écrit et publié. Pourquoi ? Pour que ce soit à destination d'un plus vaste public au-delà des frontières du Sénégal, du continent africain, que vraiment ça puisse toucher à le plus grand nombre de personnes?
Oui, tout à fait, parce que je pense que chaque peuple... Moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu longtemps en France, et notamment dans un petit village de province, Marcillargues. C'est dans le sud. Et à Marcillargues, je me retrouvais pratiquement comme dans mon village au Sénégal. D'ailleurs... J'étais très ami avec le palefrenier du village qui parlait occitan. Il parlait même pas français. Et à Marcillargues, il y avait un génie.
Donc il y avait génie aussi à Marcillargues dans le sud de la France.
À Marcillargues dans le sud de la France.
Mais il s'appelait comment ce génie?
La bacanègre, la vache noire, qui les soirs de pleine lune venait saccager les plantations de riz. Et c'était ce génie-là qui habitait la Camargue. Et comme j'étais féru de tout ça, l'instituteur Canévinque me contait toute cette histoire de la Camargue. Et moi, je me retrouvais carrément en Afrique.
Ah, c'est pour ça que quand on lit vos contes, Messambay, tout nous semble un peu familier parce qu'effectivement, chacun dans notre région, On a un conte et on a un génie.
Oui, tout à fait. Et c'est le rôle aussi des grands-mères. Moi, je pense qu'il y a un rôle centenaire ou universel des grands-mères qui comptent, qui font transmission, qu'elles soient sénégalaises, occitanes, bretonnes ou sénégalaises. Elles ont cette mission-là.
Alors justement, il y a une grand-mère avec vous aussi, Raphaël Red, dans le roman au Togo. Alors, pas tout à fait au Togo d'ailleurs. C'est quand elle a franchi la frontière vers le Ghana que Adikou rencontre une grand-mère qui, elle aussi, transmet des histoires.
Oui, elle la rencontre de la même manière que beaucoup de choses se passent dans ce récit, à savoir que c'est pas toujours évident de savoir si elle... Si la question, c'est est-ce que cette grand-mère a un corps qui vit parmi nous, là maintenant, je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre.
Donc là aussi, il y a des fantômes, du surnaturel, voilà. Ou en tout cas ce lien entre le visible et l'invisible.
Complètement. Et je pense que ça me touche beaucoup aussi de penser le lien entre la transmission des grands-mères et les génies et le surnaturel, parce que d'une certaine manière, c'est aussi, je pense, ce qui se passe dans Adikou, c'est-à-dire que dans ce processus... de création ou de reconnexion, elle se retrouve habitée et hantée par un certain nombre de personnes, de personnages, et notamment une grand-mère qui vient remplir en fait cette fonction-là.
Vous avez eu quelqu'un, vous aussi, qui vous a transmis des histoires ?
Oui, plusieurs personnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'histoires, beaucoup de contes de différentes origines dans ma vie et dans mon apprentissage. Ouais.
C'est ce qui nourrit et c'est ce qui nourrit aussi votre œuvre à tous les deux.
Ah oui, oui, oui.
Un héritage à transmettre.
Oui, tout à fait.
Et à partager.
Tout à fait.
Et si je peux peut-être ajouter quelque chose sur le rôle des contes, il me semble qu'il y a un rôle supplémentaire dont on n'a pas complètement parlé, mais qui est celui de l'apaisement. Quand on parle de grand-mère, alors je pense à ma grand-mère et à ses contes à elle et à sa manière de raconter. Et dans un premier temps, je pense que moi, j'ai vachement intériorisé cette idée de l'histoire comme un apaisement, comme une manière de revenir à soi, de souffler. Et je trouve assez belle l'idée que quand on emmène ça dans l'écrit et quand on emmène ça dans la littérature, etc., on garde aussi peut-être quelque chose de ce rapport enfantin ou en tout cas très humain à l'histoire comme une manière de s'apaiser, de se calmer, de se dire « voilà, c'est ça l'histoire et on va rester là un moment ». Et ça calme, en fait, tout simplement, je trouve.
Et chez nous, ma grand-mère, elle était très stratège. Elle avait dans sa besace des contes qui faisaient plus ou moins peur. Et si on se tenait à carreau, c'était des contes très doux, sans grande surprise. Mais si on avait été très perturbant, elle sortait des contes ou des monstres qui étaient là. Elle avait cette faculté-là de nous mener.
En tout cas, ce que j'entends avec vous deux, c'est qu'aussi le conte, il passe beaucoup par la voix féminine. D'autant plus qu'aujourd'hui, vendredi 8 mars, nous célébrons, comme nous devrions le faire tous les jours, la Journée internationale du droit des femmes. Et évidemment, cette émission leur est dédiée. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Littérature sans frontières, hors des frontières justement, puisque nous sommes avec vous ici à Genève, au Salon du Livre, dont vous êtes deux des invités. Je rappelle les titres des ouvrages pour lesquels vous êtes venus rencontrer le grand public et que vous allez signer. Adikou de Raphaël Red, apparu aux éditions Grasset, et Génie de Meysam Baye aux éditions Saraba. Merci encore.
Merci à vous.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.